L'Afrique subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Perte de la biodiversité, sécheresse, baisse des rendements agricoles, érosion côtière, tous les voyants sont au rouge. Pourtant, à l'échelle mondiale, notre continent n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les questions liées à l'environnement sont devenues à la fois une urgence climatique et sociale. Alors, dans votre podcast Green Africa, nous allons essayer de mieux saisir les enjeux du changement climatique et entrevoir des solutions.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Green Africa. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord parler du stress hydrique au Maroc. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Le professeur Hassan Ramon sera avec nous dans la première partie de votre podcast. Et souvent dans ce contexte, l'agriculture qui consomme énormément d'eau est souvent pointée du doigt. Comment cultiver précis, rentable et durable? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de Green Africa avec Hamza Al-Shaham, cofondateur de Sowit, une start-up marocaine qui veut démocratiser l'agriculture de précision sur le continent. Chaque minute dans le monde, 5 personnes meurent par manque d'eau. Notre planète est en surchauffe, nos terres se dégradent. Pas un seul pays n'échappe aux effets du changement climatique. Le Maroc n'est pas épargné. Le royaume subit une grave sécheresse depuis plus de 40 ans. Dans les années 60, la disponibilité en eau était 4 fois supérieure à aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui dans Green Africa Hassan Ramou, professeur, chercheur à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour professeur et merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour l'invitation, merci à vous.
Alors, les principales retenues d'eau du royaume ont atteint un niveau de remplissage historiquement bas quand on dit que le royaume fait face à un stress hydrique sans précédent. Professeur, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le citoyen?
Alors, le stress hydrique, d'abord au Maroc, il faut rappeler que c'est structurel au niveau de climatique parce que le Maroc est situé dans une aire climatique qui est aride et qui est caractérisé par une irrégularité des précipitations d'une année à l'autre. Mmh. Autrement dit, dans les années normales, on peut avoir 48 milliards de mètres cubes pour une année humide, qui peut chuter jusqu'à 5 milliards seulement de mètres cubes pour une année très sèche. Autrement dit, ça, bien entendu, on ne faut pas oublier qu'on est dans un climat aride et que cette sécheresse est toujours structurelle. Le grand problème ou bien le grand défi pour le Maroc, c'est comment adapter notre économie et nos besoins à cette rareté, sachant qu'il y a une croissance économique, il y a une croissance démographique et il y a une amélioration des conditions de vie qui nécessitent plus d'eau.
On aura l'occasion.
Il faut adapter cette vie et cette économie et cette croissance démographique à la rareté de l'eau.
On aura l'occasion d'y revenir. Mais comment en est-on arrivé à ce stade de stress hydrique, professeur?
Alors, il faut rappeler que les dernières années, il y a une succession des années de sécheresse. Mmh. À titre d'exemple, la part d'eau par habitant est passée de 2560 mètres cubes par habitant dans les années 1960 à seulement 700 mètres cubes habitant en 2010 et cette année a chuté jusqu'à moins de 60-50 mètres cubes par habitant. C'est la succession des années de sécheresse et qui est due au changement climatique. Mais de l'autre côté, il y a une croissance démographique. Le nombre d'habitants est en forte croissance. De même pour le rythme de croissance économique qui nécessite plus d'eau, notamment l'agriculture qui est le secteur le plus consommateur d'eau au Maroc.
Professeur, face à ce déficit pluviométrique dont on parle souvent, un plan national de l'eau 2020-2050 a été élaboré par les autorités marocaines. Justement, que vous évoque aujourd'hui la stratégie du gouvernement face à cette situation?
Oui, d'abord, il faut rappeler qu'avant cette stratégie, le Maroc a été sensible à cette question d'eau. Mmh. Juste pour rappel, la politique des barrages lancée par Feh Hassan II depuis les années 60, 70, 80 Et bien entendu, il y a eu dans les outputs du schéma national d'aménagement territoire en 2002, il y a eu cette question épineuse des questions de l'eau. Il y a le débat national de l'eau qui a été lancé pendant le 2000, 2000, après 2000, 2007-2008. C'est une série de politiques publiques qui visent à adapter l'économie et les besoins du Maroc à cette question de Pinewood.
Mais souvent,
Bien entendu.
ce sont les, comment dirais-je, l'efficacité de ces programmes, de ces plans qui sont, voilà, qui est souvent remise en question. Raison pour laquelle aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que ces programmes aujourd'hui mis en place par les autorités, est-ce qu'ils vont porter leurs fruits? Et réellement, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que voilà, leur efficacité ne soit plus remise en question?
Alors, en 2022 maintenant, on récolte les bons résultats de ces politiques de barrage, parce qu'il n'y avait pas ces barrages. Depuis les années 80, 80 du siècle dernier, on n'aura pas cette situation de stabilité quand même maintenant. Il faut le rappeler. La deuxième chose, tout ce débat, bien entendu, ces politiques ont été lancées, ils ont mis le point sur certains axes qu'il faut absolument les traiter d'une manière, pas question politique, mais surtout au niveau technique et financier. Par exemple, la question de l'interconnexion des bassins, c'est-à-dire le transfert d'eau d'un bassin excédentaire vers un bassin qui connaît moins de budget hydrique. Autrement dit, qu'il y a une irrégularité au niveau spatial dans le territoire national. Des zones qui reçoivent plus d'eau que d'autres, par exemple Mbarbé ou bien Bourgrèg ou bien Sbo. Et bien entendu, il y a d'autres bassins qui sont très déficitaires en termes de ressources hydriques. Et il faut faire ce transfert de ces zones-là vers les zones nécessitées. Bien entendu, que ce transfert va être accompagné, bien entendu, de politiques adaptées en termes d'utilisation de ces ressources. On sait très bien, par exemple, que les zones chaouias sont agricole, à forte vocation agricole, il faut à ramener de l'eau, par exemple, du Sbo. Et de la même chose pour les autres zones. Bien entendu, cette politique a fait qu'il y a d'autres solutions envisageables, notamment le dessalement des eaux de mer, surtout si c'est le cas, par exemple, dans le cas de Souss-Massa et dans les provinces du sud du Maroc. Mais on
Justement,
sait très bien.
professeur, mis à part aujourd'hui la construction de barrages, les autorités parient également sur le dessalement des eaux de mer. Selon vous, sur quoi devrait, disons, reposer cette solution pour favoriser une gestion inclusive de l'eau, notamment au niveau des communautés rurales qui n'ont parfois, disons-le, d'autres issues que de creuser des puits?
Alors, pour clarifier la chose, le dessalement des eaux de mer, ce n'est pas la solution envisageable pour tous les secteurs économiques, mais surtout l'agriculture. Parce que même avec le dessalement, quel que soit le processus de ce dessalement, il reste une quantité de sel dans l'eau qui n'est pas compatible avec une irrigation, une agriculture irriguée intensive. Parce qu'au fil des 5 années, 10 années, il y aura un problème de salinisation du sol et comme ça, on aura perdu à la fois le sol et on n'aura pas d'eau. Et le dessalement des eaux de mer, c'est seulement destiné pour subvenir les besoins de ce qu'on appelle l'eau municipale, de l'industrie, l'eau dans les maisons et pas pour l'eau potable. Ça, c'est un premier rappel. Le deuxième, c'est le dessalement des eaux, c'est uniquement pour l'utilisation limitée. Alors que la solution, c'est comment adapter l'agriculture marocaine à cette rareté de l'eau. On a des expériences à l'échelle africaine, par exemple. On sait très bien que, par exemple, la Tunisie, il oriente son agriculture vers des produits destinés à l'exportation, mais qui consomment moins d'eau. C'est le cas de l'olivier, le cas des dattes. Alors que notre économie, notre agriculture se base toujours sur l'exportation des agrumes qui sont très consommatrices d'eau. Alors, c'est question au niveau d'adaptation des politiques agricoles à la rareté fréquente des ressources hydriques. Et
Justement,
pas le contraire, c'est-à-dire rechercher la mobilisation des eaux là où il y a l'eau pour juste continuer sur la même trajectoire agricole.
professeur, souvent, vous l'avez dit, on pointe du doigt une arboriculture aquavore, une agriculture qui consomme énormément d'eau. Dans ce cas de figure, quel type d'agriculture devrions-nous privilégier au Maroc?
Oui, c'est ça. Alors, si on voit les politiques agricoles dans le continent, par exemple l'Éthiopie ou bien le Soudan ou même l'Égypte, ils ont un profil agricole très particulier. On essaye de encourager la production des produits qui sont adaptés au contexte climatique local.
D'accord.
Ce n'est pas le cas pour le Maroc et ce n'est pas le cas pour l'Égypte, parce que l'Égypte aussi, elle vit un grand stress hydrique et la majorité des exportations sont liées à des produits très consommatrices d'eau. Et le Maroc, c'est la même, presque la même chose. On a seulement 29 milliards de mètres cubes comme ressources intérieures. Et bien entendu, la structure des produits agricoles qu'on a au Maroc, elles sont très consommatrices d'eau, notamment les agrumes, la tomate, la pastèque, etc. Alors qu'il fallait réorienter cette production vers d'autres produits qui ne consomment pas beaucoup d'eau. Il y a un autre problème qui s'impose, c'est qu'on a au niveau des nappes souterraines, des nappes stratégiques, qu'il ne faut pas les exploiter maintenant, il faut les garder peut-être pour les générations futures, si on a cette réflexion de durabilité, parce qu'on ne peut pas creuser et exploiter les puits et des réserves, des nappes stratégiques pour une production agricole et à une rentabilité immédiate, surtout les cultures annuelles de pastèque dans le sud-est, ou
D'accord.
bien même dans le cadre agricole uniquement, juste par question d'équité sociale, parce que l'eau, c'est un bien collectif. On sait très bien, jusqu'à aujourd'hui, 2022, on n'a pas encore de la taxe sur l'agriculture. Autrement dit, il y a certains grands agriculteurs qui peuvent exploiter un bien collectif qui est l'eau souterraine juste pour s'enrichir, alors que c'est l'État qui n'est pas bénéficiaire. Ça, c'est un créneau essentiel.
D'accord, professeur, vous l'avez dit, l'eau, c'est un bien collectif. Et dans ce contexte aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de, disons, de revoir notre rapport à ce liquide précieux, surtout, voilà, nous qui sommes souvent dans les maisons?
Oui, je pense que déjà l'État marocain et c'est les différents gouvernements
Ouais.
ont essayé de trouver des solutions à cette question-là. Le ministère de l'Agriculture, dans le gouvernement précédent, a encouragé, par exemple, l'irrigation goutte à goutte pour économiser l'eau. Toutes les politiques d'économie d'eau ont été lancées, étaient subventionnées. Mais aussi, je pense qu'il y a assez de campagnes de sensibilisation pour les acteurs économiques aussi pour rationaliser l'exploitation des eaux. En plus, bien entendu, de la mobilisation des eaux non conventionnelles, le dessalement des eaux de mer ou bien la réutilisation des eaux usées. Mais ça, il faut le dire clairement, le Maroc est un pays aride. On a une part d'eau qui est limitée, moins de 700 mètres cubes par an. Et on aura d'ici 2060 moins que 500, bien 500 mètres cubes par an. C'est une situation critique, mais dans son contexte régional, il est meilleur que la Tunisie ou bien l'Algérie qui va atteindre seulement, à l'horizon 2026, aura seulement 150, bien 160 mètres cubes par habitant. Et ça, je
D'accord,
pense,
oui.
ça, c'est la cause de l'héritage, les résultats de la politique des barrages qu'a fait le Maroc pendant le siècle dernier, les années 80 et les années 70.
Et en ce moment, au niveau du royaume, les autorités accélèrent la cadence pour faire face à ce stress hydrique. Nous l'avons vu notamment avec le plan national de l'eau 2020-2050 qui a été élaboré par les autorités justement pour faire face à ce phénomène. En tout cas, professeur Hassan Ramou, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes professeur-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat et consultant également en développement durable. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Green Africa. Merci beaucoup, professeur.
Merci à vous.
Et tout de suite, place à la seconde partie de cette émission consacrée aux solutions vertes. Nous venons de le voir, face au stress hydrique, nous sommes tous appelés à revoir notre rapport à l'eau. Et dans ce contexte, l'agriculture consomme énormément d'eau et est souvent pointée du doigt. Comment cultiver précis, rentable et durable? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Hamza Hachem, cofondateur de Sowit, une start-up marocaine qui veut démocratiser l'agriculture de précision sur le continent. Bonjour Hamza et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors Hamza, au Maroc, la gestion de l'eau, nous l'avons vu dans la première partie de cette émission, est aujourd'hui l'une des priorités du gouvernement. Comment votre start-up apporte-t-elle sa pierre à l'édifice, notamment chez les agriculteurs?
Alors Sowit est une start-up qui a été créée justement avec l'ambition d'accompagner les agriculteurs dans la transition, non seulement économique et environnementale, c'est-à-dire leur permettre de tirer le meilleur de leur terre, plus de productivité, mais de le faire le plus durablement possible. Cette ambition, elle passe notamment par le fait de gérer l'aspect irrigation, l'aspect eau. Cet aspect environnemental est central dans toute production agricole. Il faut savoir, par exemple, qu'un hectare d'avocat va consommer entre 5 et 10 000 mètres cubes d'eau, ce qui représente à peu près 10 à 20 fois ce que consomme un Marocain par an. Et donc, il y a tout intérêt à aller optimiser cette irrigation-là, tout intérêt à aller optimiser l'aspect énergétique qui se trouve derrière, la consommation des pompes qui vont venir pomper l'eau, mais aussi le pomper du bassin et le faire passer dans l'infrastructure d'irrigation, mais aussi tout intérêt à irriguer de manière précise pour favoriser le rendement. Et donc c'est à ce niveau-là que nous on se place. Notre métier c'est d'exploiter une donnée, principalement une donnée satellite. Donc on ne demande pas grand-chose à l'agriculteur si ce n'est de nous dire où se trouve sa parcelle. Et à partir de cette donnée, on l'accompagne au quotidien avec des conseils qui l'aident à venir optimiser ses opérations, irrigation, fertilisation, date de récolte, estimation de rendement et j'en passe.
Vous venez de parler de données. Hamza, j'imagine la demande est aujourd'hui forte du côté de Sowit, plus de demandes, donc plus de données à traiter, mais ce n'est toujours pas facile. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face concernant la collecte de données au Maroc?
Alors bien sûr, le nerf de la guerre, c'est la donnée. C'est non seulement la capacité à la collecter pour pouvoir la traduire en conseil, en valeur pour l'agriculteur, et pas seulement l'agriculteur d'ailleurs, tout ce qui l'entoure, que ce soit les organismes de financement qui ont besoin de savoir dans quelles conditions il produit pour lui donner accès au meilleur crédit, ou que ce soit par exemple les institutions publiques qui ont besoin tout simplement d'être à son chevet et de lui apporter les meilleures solutions selon ses conditions. Et en fait, cette donnée, en effet, elle pose plusieurs enjeux. Un premier, c'est tout simplement un enjeu de souveraineté. Il y a l'impératif qui est celui que la donnée des agriculteurs, qu'ils soient d'ailleurs marocains, tunisiens, sénégalais ou ivoiriens, soit gérée de la manière la plus intègre possible, parce qu'elle représente non seulement un patrimoine pour le pays, mais elle représente aussi une valeur pour ces agriculteurs. Et à ce niveau-là, nous, on s'est très très vite conformé au règlement RGPD européen, qui est, on va dire, le plus rigoureux, restrictif en la matière, pour pouvoir la protéger. Et cela pose en effet un challenge, qui est son exploitation. Parce que plus on est restreint au niveau des données, c'est-à-dire plus on a du mal à les collecter au niveau des agriculteurs et en faire sens, que ce soit d'ailleurs pour un aspect réglementaire qui nous empêche pour une donnée qui identifie un agriculteur de pouvoir l'utiliser pour lui faire du conseil ou l'utiliser pour pouvoir améliorer nos algorithmes, ou que ce soit pour un aspect totalement pratique qui est la difficulté d'accéder aux données dans les territoires, c'est-à-dire la difficulté de la collecter. Et on peut penser à deux axes ici qui posent un petit peu, on va dire, des enjeux forts. Le premier, c'est la réglementation. Pour collecter de la donnée, il faut des capteurs. Nous, on a la chance d'utiliser principalement du satellite et qui en soi nous permet d'accéder à la donnée de n'importe quelle parcelle sans avoir des contraintes réglementaires dans l'exploitation de ces données. Mais il y a aussi la donnée des capteurs qui peuvent être comme les capteurs au sol, par exemple, qui vont mesurer l'humidité, ou des capteurs qui peuvent être des capteurs sur des stations météo qui vont mesurer les températures. Ces capteurs devant communiquer sur des réseaux, notamment des réseaux efficients d'un point de vue énergétique pour pouvoir communiquer durablement, sont en fait assez régulés, comme D'accord. c'est le cas du réseau bas débit LoRa, par exemple, et donc ce qui pose un enjeu qui est celui de pouvoir accéder à cette donnée facilement pour la transformer pour l'agriculteur.
L'accès aux données, c'est très important. Hamza, dites-nous quel regard vous jetez aujourd'hui sur l'agritech au Maroc?
Alors nous on était, c'est vrai qu'on était pionniers au Maroc sur le sujet de l'agritech, et aujourd'hui on est très content de voir beaucoup d'initiatives comme celle qui a été menée récemment Agritech for Morocco par le CGIAR et Impact Lab. Ouais. L'écosystème reste largement embryonnaire. Quand on voit que Israël a plus de 400 agritech et qu'en France il y en a une centaine, on va dire que la dizaine d'agritech qui aujourd'hui font le Maroc sont pas à la hauteur. J'ai envie de dire en nombre et en force de l'agriculture marocaine qui pèse jusqu'à 20% du PIB sur 8 millions d'hectares et emploie une partie significative de la population.
Alors Hamza, qu'est-ce qu'il faut de plus à cet écosystème pour qu'il apporte, disons, de manière efficace sa pierre à l'édification d'une agriculture marocaine, disons, moderne, rentable et respectueuse de l'environnement?
Je pense qu'il y a trois éléments principaux. Le premier, c'est beaucoup plus d'initiatives qui font émerger des jeunes pousses, comme ce que fait Impact for Lab, parce que c'est le moment le plus critique. Le deuxième, c'est un support institutionnel qui a démarré avec Generation Green et qui doit se poursuivre et être beaucoup plus massif, ce que fait la CCG par exemple, Tiamouilcom, ou ce que fait la CDG Invest, pour venir donner du financement et permettre tout simplement aux jeunes pousses de grandir. Et trois, je dirais, beaucoup plus d'appui à la recherche, parce qu'il ne peut pas y avoir d'entrepreneuriat technologique, agri-tech, compétitif, à l'état de l'art international, sans des contacts solides avec la recherche. Je pense à l'Institut National de Recherche Agronomique par exemple, qui fait un grand travail avec M. Bekaoui, mais dont l'action doit être renforcée par d'autres institutions qui doivent se positionner sur le sujet et ouvrir le champ aux entreprises.
En tout cas, Hamza Al-Hashaham, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Sowit, une start-up marocaine qui veut démocratiser l'agriculture de précision dans le Royaume, mais également sur le continent. Merci.
Merci, à très bientôt.
Voilà qui referme ce numéro de Green Africa. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement, en plus d'être une urgence climatique, elle est aussi une urgence sociale.